Les matins se poursuivent avec le journal d'Anne-Laure Chouin à 8h. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La situation est tendue en Libye où le général Haftar, l'homme fort de l'est du pays, a massé ses troupes tout près de la capitale, Tripoli. Se dirige-t-on vers une nouvelle guerre civile? Les Libyens sont inquiets, nous dira Maureen Mercier.
Et puis nous irons en Israël également où les derniers sondages donnent Benjamin Netanyahou gagnant pour les élections législatives anticipées. Dans quel état se trouve Israël après 10 années de Netanyahou? Réponse avec Étienne Monin.
Étienne Monin qui signe le grand reportage de la rédaction ce soir à 17h. Une autre campagne, celle des élections européennes. Hier, le premier débat avec 12 têtes de liste françaises avait lieu sur France Inter et France 2, l'occasion pour les petits candidats de se faire entendre, nous dira Rosalie Lafarge.
Et puis le Conseil constitutionnel, Anne-Laure, a retoqué l'article 3 de la loi dite anti-casseur. Mais le reste de la loi pose également question selon certains juristes.
Enfin, nous reviendrons sur la confrontation hier entre deux femmes au procès en appel de Mohamed Merah, la mère du tueur et la mère d'une victime. La Libye, déjà plongée dans le chaos, est-elle au bord d'un nouvel affrontement? Alors que dans quelques jours, une conférence nationale est organisée pour préparer des élections, l'homme fort de l'est du pays, le général Haftar, a massé une partie de ses troupes aux portes de la capitale, Tripoli. La communauté internationale qui doit se réunir aujourd'hui sur le sujet craint un affrontement entre les forces de l'est et de l'ouest du pays. Affrontement qui pourrait faire replonger la Libye dans la guerre civile. Les Libyens sont extrêmement inquiets. Maureen Mercier se rend régulièrement dans la région. Elle a rencontré certains d'entre eux.
On attend, on a très peur, nous ne voulons plus que le sang coule, je ne pourrai pas supporter une nouvelle guerre. Propos angoissés d'un docteur et d'un jeune Libyen joint hier soir et qui craignent de voir débarquer les troupes du général Haftar. L'heure a sonné, déclaration du général hier soir sur les réseaux sociaux. Il ordonne à ses troupes d'avancer sur Tripoli sous prétexte d'éliminer, je le cite, les terroristes et les mercenaires. S'il a réussi à s'imposer à l'est de la Libye, c'est en éliminant certes les terroristes islamistes, mais aussi tous ceux qui s'opposent à lui. Le gouvernement reconnu par l'ONU est basée à Tripoli, a donné l'ordre aux milices qui le soutiennent de faire face à toute menace. La France, l'Italie, les États-Unis et l'ONU appellent à une désescalade immédiate. C'est le pire des scénarios qui pouvait se produire à 10 jours de la conférence nationale qui doit réunir toutes les parties en Libye pour s'entendre sur l'organisation d'élections et enfin stabiliser le pays qui s'enlise depuis la chute de Kadhafi. Cette conférence est considérée par beaucoup comme le dernier espoir pour trouver le chemin vers la paix. Scénario optimiste, le général Haftar ne fait que montrer sa puissance et ses capacités de nuisance à la veille de cette conférence. Scénario pessimiste, il veut prendre le pouvoir militairement sur l'ensemble du pays avant la conférence et la rendre ainsi parfaitement inutile.
Maureen Mercier de RFI pour France Culture. En Algérie, la population, elle, se pose toujours des questions sur la suite après la démission de Bouteflika et l'intérim du président du Sénat. Que peut-il se passer? Les Algériens se préparent à un 7e vendredi de manifestation dont le mot d'ordre est un appel à la fin du système Bouteflika dont beaucoup d'habitants estiment qu'il est toujours en place. 3 personnalités sont spécifiquement visées. Le futur président intérimaire, Abdelkader Ben Salah, le premier ministre, Noureddine Bédoui, et le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz. Invité du journal de 22h hier soir, le politologue Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, il pense que la période est propice à l'organisation d'élections vraiment libres en Algérie.
Je crois que pour la prochaine fois, les élections seront libres. Pourquoi ? Parce que la conscience citoyenne s'est réveillée et les millions d'Algériens à qui ont volé les votes et qui ont fini par s'abstenir puisqu'on votait pour eux, cette fois-ci vont s'inscrire sur liste électorale et vont aller au dépouillement des urnes pour savoir qui l'aura emporté et pour donner toute la légitimité au vainqueur. Auparavant, vous savez que le président Bouteflika en 99 exigeait un score supérieur à celui du président Zerwal, son prédécesseur. Et en 2004, il avait exigé un score supérieur à celui de Jacques Chirac en 2002. Donc, vous voyez, les élections étaient jouées d'avance. Le régime payait quelques lièvres pour faire semblant de courir face à Bouteflika et il allait l'emporter haut la main. Cette fois-ci, ça ne sera plus le cas, bien que le Premier ministre aujourd'hui, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, donc l'homme de toutes les fraudes électorales, je crois que la vigilance citoyenne va marquer le coup cette fois-ci.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Benjamin Stora, vous êtes l'invité des matins. Merci d'être resté en studio. Revenons sur la Libye dont on parlait précédemment et dont on imagine que la situation libyenne est regardée d'assez près par les Algériens. Est-ce qu'un scénario libyen est envisageable, est imaginable en Algérie ?
Alors, la Libye, d'abord, c'est très important pour l'Algérie parce que c'est une immense frontière avec l'Algérie, des centaines et des centaines de kilomètres. Et là, ça interfère sur la situation algérienne parce que l'armée algérienne est en première ligne sur la question des frontières avec la Libye. Et donc, si la situation ne va pas très bien en Libye, ça affaiblit aussi, les possibilités d'action de l'armée algérienne. Donc, on sait que cette armée joue un très grand rôle dans la transition politique aujourd'hui en Algérie. Donc, les événements libyens vont jouer un rôle important.
Merci beaucoup, Benjamin Stora. On vous retrouve dans la deuxième partie des matins. Partons à présent en Israël, où la campagne pour les élections législatives anticipées est dans sa dernière ligne droite. Les derniers sondages sont plutôt favorables au Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui vise un cinquième mandat. Il est en poste depuis 10 ans consécutifs et s'il l'emporte, il battra le record de longévité de David Ben-Gourion. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Jérusalem. Vous signez ce soir à 17h sur France Culture le grand reportage de la rédaction intitulé « Netanyahou, 10 ans après l'État d'Israël ». Alors Étienne, je vous pose la question, 10 ans après, dans quel état est le pays ?
Aujourd'hui, Israël est une démocratie clairement libérale avec une économie dynamique, mais toujours marquée par des archaïsmes et des inégalités très fortes. C'est aussi un pays clivé dans lequel les institutions sont fragilisées. Par exemple, la ministre sortante de la justice fait campagne aujourd'hui sur la reprise en main de la Cour suprême. La droite est convaincue qu'une caste de gauche dirige aujourd'hui la presse et la justice au détriment du Premier ministre. Cette conviction est profonde. Elle est au cœur de la campagne politique. Elle est alimentée par le Premier ministre en personne, menacée par des affaires judiciaires qui appuient sur cet aspect. Cela affaiblit l'état de droit et cela fait d'Israël une démocratie aujourd'hui fragile, menacée d'un tournant illibéral, avec une place importante laissée depuis le gouvernement de 2015 à l'idéologie des colons, avec à l'issue de ces élections, en cas de victoire du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, une possibilité de coalition avec les extrêmes, les ultra-orthodoxes et l'extrême droite.
Étienne, parle-t-on encore d'une résolution du conflit avec les Palestiniens ?
Et c'est exclu de cette campagne pour l'instant. Ce thème-là n'est pas abordé. Ça porte uniquement pour l'instant sur les questions de sécurité. Même la principale liste d'opposition censée être de centre-gauche ou centre-droit, puisque son positionnement n'est pas très clair, eh bien cette liste d'opposition se rapproche des positions fermées du Premier ministre. Benjamin Netanyahou campe sur la stratégie du statu quo. Il n'y a pas d'avancée en Cisjordanie et à Gaza. La situation est donc instable. L'onde de choc est périodique. Pour l'instant, elle arrive de Gaza. C'est un calme précaire qui est installé autour de ces élections dans la région.
Merci beaucoup Étienne Monin. On vous retrouve donc ce soir à partir de 17h pour votre grand reportage sur l'État d'Israël réalisé par Annie Brault et présenté par Aurélie Kiefer. L'invité sera la sociologue Eva Illouz. Au Royaume-Uni, les discussions ont continué hier entre les partis britanniques pour tenter de s'accorder avant un quatrième vote sur l'accord de retrait de l'Union européenne, faute de quoi un hard Brexit pourrait être effectif dès vendredi prochain, sauf si Londres accepte le principe d'un report flexible de 12 mois. C'est une proposition qu'aurait faite ce matin le président du Conseil européen, Donald Tusk, proposition qui reste à valider par les autres pays membres. Et en attendant de savoir si les Anglais devront organiser ou non des élections européennes, la campagne en France est entrée dans le vif du sujet avec hier un premier débat. 12 têtes de liste aux européennes étaient réunies sur le plateau de France Télévisions et de France Inter pour faire valoir leur vision de l'Europe. Un débat confus, parfois 3h10 au total, de débats où l'on a pu voir émerger différentes visions et des différentes solutions également. Mais un constat unanime, l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement ne fonctionne pas. Le compte-rendu de Rosalie Lafarge.
Elle a eu les oreilles qui sifflent, la construction européenne. Dans un brouhaha quasi permanent, chacun y est allé de sa critique, les plus virulentes brandies par les partisans d'une sortie de la France de l'Union, à l'image de Florian Philippot pour les Patriotes et François Asselineau de l'UPR.
Il y a 12 ans, j'ai créé un parti politique pour dire qu'il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de sortir de cette prison. On est dans un débat lunaire. L'Europe est en train de se rétrécir. On va pas l'agrandir encore, n'importe quoi.
Une position entièrement rejetée par Jean-Christophe Lagarde à l'UDI.
La solution, elle n'est pas dans la sortie de l'Europe. Elle est effectivement dans sa transformation. Elle est dans la construction de sa puissance.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, construire une Europe puissante? La réponse à gauche de Raphaël Glucksmann.
Ça veut dire qu'il va falloir rompre avec l'idéologie du libre-échange absolu. Qu'on protège nos frontières, qu'on installe un protectionnisme vert aux frontières de l'Union européenne, une taxe carbone sur les importations.
Une gauche divisée sur la manière de changer l'Union européenne, l'écologiste Yannick Jadot et l'insoumise Manon Aubry se sont d'ailleurs attaqués là-dessus.
C'est pas l'Europe à tout prix, c'est l'Europe, oui, mais sur des bases de souveraineté populaire.
J'ai bien compris que pour vous, c'était l'Europe, on la change ou on la quitte. Pour nous, c'est l'Europe, on y est
nous,
et on
monsieur.
La change.
Et pour la changer, on l'affaiblit ou on la renforce. C'est selon Benoît Hamon de Génération veut réviser les traités. Le communiste Yann Brossat préconise d'en finir avec les lobbies, là où souverainistes et fédéralistes plaident chacun à leur manière pour une redéfinition des frontières. Nationale pour Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Européenne pour la candidate de la majorité Nathalie Loiseau. Les deux, si on retient l'option de François-Xavier Bellamy pour les LR.
Et nous reviendrons sur ce premier débat français des européennes dans le billet politique de Stéphane Robert après ce journal.
8h10 sur France Culture, la suite du journal dans les matins. Le journal d'Anne Lorchouin, il y aura 25 ans, le 7 avril, débutait le massacre des Tutsis par les Hutus au Rwanda en 3 mois, d'avril à juin 1994. Plus de 800 000 personnes étaient ainsi assassinées, un génocide dans lequel les responsabilités de la France font toujours polémique 25 ans plus tard.
Et arrêtons-nous ce matin sur une arme de guerre qui fut utilisée pendant ce conflit rwandais. Le viol. S'il est parfois difficile de juger les responsables politiques des massacres, il l'est souvent encore plus de juger ceux des crimes sexuels. C'était le thème d'un colloque organisé par l'Institut francophone pour la justice et la démocratie hier à Paris. Maxime Fayol.
Depuis toujours, les violences sexuelles sont une arme politique lors des conflits armés. Pourtant, ce n'est que récemment qu'elles ont été mises en lumière, explique le professeur de droit public Jean-Pierre Macias.
C'est qu'à partir de la Yougoslavie qu'on a fait attention à ce genre de violence parce que la guerre se passait en direct, parce que on est peut-être plus ouvert sur les non-combattants et sur les femmes. Mais il y a eu des violences extraordinairement fortes contre les civils femmes dans la Deuxième Guerre mondiale et même dans la Première Guerre mondiale. Donc c'est un phénomène qui a toujours été très présent.
Et les sanctions sont rares. Aucune condamnation définitive aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. L'avocate à la CPI, maître Julie Goffin, rappelle deux exemples, ceux de Thomas Lubanga et de Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo.
Il y a eu le procès Lubanga qui s'est concentré sur la situation des enfants soldats. On parlait beaucoup des enfants soldats à ce moment-là. Est venu après la problématique des violences sexuelles. Bemba en était un excellent exemple. Maintenant, l'acquittement a eu les conséquences qu'on sait. Les victimes, du coup, n'obtiendront pas réparation. Mais il y a plusieurs dossiers maintenant qui sont en cours et qui pourront aboutir à des condamnations pour violences sexuelles.
Des enquêtes voient également le jour en France, mais là encore, le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris se heurte à de nombreux obstacles. La vice-procureure Aurélia DeVos est la chef de ce pôle.
Les enquêtes sont longues, elles sont complexes, elles dépendent beaucoup de l'entraide pénale internationale et donc avancent par à-coups. Il faut déployer beaucoup de mécanismes pour pouvoir trouver les témoins, trouver les victimes, assurer le contradictoire. Tout cela, bien évidemment, prend beaucoup de temps.
Pour l'instant, seuls 4 procès ont eu lieu en France pour des crimes de guerre. Tous concernent les actes commis au Rwanda.
Et puis les 25 ans du génocide rwandais. On y reviendra notamment dans la Fabrique de l'Histoire après le journal de 9h et puis dans les programmes et sur le site de France Culture tout ce week-end. Le Conseil constitutionnel a retoqué hier une des dispositions phares de la loi dite anti-casseur. Les sages avaient été saisis par des députés, des sénateurs et par le président de la République lui-même concernant 4 articles de la loi. 3 d'entre eux, ont été jugés conformes. Le 4e, l'article 3, a été censuré. Il prévoyait une interdiction administrative de manifester pour les personnes ayant commis des actes violents, un motif trop vague selon les sages. Mais ils ne remettent pas en cause le fait qu'un préfet puisse interdire à quelqu'un de manifester. Et ça, ça peut poser problème d'un point de vue juridique. Écoutez la professeure de droit constitutionnel à l'université Sorbonne Nouvelle, Laureline Fontaine.
Pour moi, c'est un risque de confusion des pouvoirs. Alors, l'autorité préfectorale dispose d'un pouvoir de police. Le pouvoir de police des autorités administratives, en tant qu'il s'agit d'un pouvoir de prévention de l'ordre public, est un pouvoir qui est reconnu depuis longtemps. Ce qui me semble être une difficulté s'agissant de la présente loi et s'agissant du fait que le Conseil ne l'a pas relevé, c'est que le pouvoir qui est ainsi conféré à l'autorité préfectorale s'apparente à un pouvoir, on va dire, quasi-répressif. Et ça, je pense que c'est effectivement une vraie difficulté que ne relève pas du tout le Conseil constitutionnel, en se contentant de dire qu'il est nécessaire qu'il y ait une atteinte proportionnée, adaptée et nécessaire aux droits constitutionnels garantis pour sauvegarder l'ordre public. On va dire qu'il y a une sorte de principe qui a été admis que l'autorité administrative pourrait être amenée à exercer un pouvoir qui est assez important sans qu'elle doive en référer a priori à un magistrat de l'ordre judiciaire. Je pense que c'est une problématique.
Le procès en appel d'Abdelkader Merah et de Feta Malki à la Cour d'assises de Paris. La Cour a commencé hier à examiner les faits avec le premier crime commis par Mohamed Merah, celui du parachutiste Imad Ibn Ziaten, dont la mère, le frère et la sœur sont venus déposer à la barre hier. C'était juste après la déposition de la mère du terroriste, deux femmes musulmanes qui ont offert, Florence Thiom, un contraste saisissant.
Tour à tour, deux femmes debout face à la cour, toutes les deux nées de l'autre côté de la Méditerranée, toutes les deux cinq enfants. Le fils de l'une a tué le fils de l'autre et Latifa Ibn Ziaten, la mère du premier militaire abattu par Mohamed Merah, supplie Zulika Aziri de dire la vérité. D'un côté, une silhouette entièrement couverte de noir, lunettes fumées et qui dépose avec l'aide d'une interprète en arabe. De l'autre, une femme en tailleur pantalon, voile imprimée sur les cheveux, venue témoigner de ses valeurs républicaines, de son amour pour la France, de sa fierté pour ses enfants. D'un côté, une déposition où le mot « normal » revient en boucle au point d'irriter la présidente. Mais enfin, madame, « normal », ça ne veut rien dire. Les questions fusent des avocats de la partie civile. Zulika Aziri s'emporte, s'obstine, pleure. En tant que mère de l'accusée, elle n'a pas eu à prêter serment. De l'autre, une femme qui évoque sa religion. « J'ai toujours appris à mes enfants à faire le ramadan. Mais quand on tue des gens innocents, dit-elle, c'est pas ça l'islam. » Depuis la mort de son fils, elle va régulièrement à la rencontre des jeunes dans les cités et les lycées. Ce qu'on vit en France, ajoute Latifa Ibn Ziaten, on ne peut pas être naïf, on doit se réveiller. Mais conclut-elle, comme lors du premier procès, j'ai confiance en la justice.
Florence Thiom, un mot rapide du temps de ce vendredi pour finir. Du soleil du Grand Est à la région PACA, plus de nuages des Hauts-de-France au Languedoc-Roussillon et de la pluie sur la côte atlantique. Les températures ce matin comptaient de moins 3 à 8 degrés. Les maximales resteront fraîches cet après-midi avec de 11 à 19 degrés.